おかしいおかしい、おかしい。
Bonsoir. La trêve est pourtant observée entre les forces loyalistes et les troupes fidèles à Laurent Nkunda, mais la situation sécuritaire reste préoccupante au Nord Kivu. Quelle est la situation sur terrain? Quelle solution pour amener définitivement la paix dans cette province? Deux camps se dessinent parmi les auditeurs qui réagissent déjà à ce sujet. D'un côté, ceux comme Thierry Nyaitunda de Kinshasa, qui croient que la solution pour amener définitivement la paix dans ce coin du pays serait de traquer Laurent Nkunda par les FARDC, car dit-il, le général déchu n'est pas au-dessus de la loi. La négociation, ajoute notre auditeur, le pousserait à s'entêter. Fabrice Toula de Oisha au Nord Kivu propose pour sa part au gouvernement et au général déchu Laurent Nkunda de se mettre autour d'une table pour dialoguer. La guerre ne peut rien résoudre, car selon Fabrice Toula, il y a des fois où les FARDC se trouvent en position de faiblesse face aux insurgés. Nous recevons pour le débat dans cette émission le député national Deogracias Mubalama. Il est rapporteur adjoint de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Nous avons aussi quelqu'un qui est à Goma. Il s'agit de Ruben Mikindo, président de l'UDPS Goma. Il intervient depuis la ville de Goma, capitale du Nord Kivu. Nous avons aussi dans ce studio Monsieur François Elika, que vous connaissez très bien, assistant à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Il intervient comme analyste politique dans cette émission. Bienvenue à tous dans ce dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Situation sécuritaire toujours préoccupante au Nord Kivu. La trêve est pourtant observée depuis le 6 septembre par l'armée nationale et les troupes fidèles à Laurent Nkunda. Quelle est la situation sur terrain actuellement? Je vous prie de suivre l'entretien de nos deux confrères, Bernardin Nyangui et Denis Diboko.
Bernardin, quelle est la situation actuelle sur terrain au Nord Kivu?
La situation était relativement calme ce mercredi dans le territoire de Masisi et de Rutshuru. Pendant ça, que dans le territoire de Masisi, les sources policières affirment que l'appel de la MONUC à la cessation des hostilités et qui demandait aux hommes fidèles à Laurent Nkunda de reculer de 10 km du centre de Sake semble ne pas être respecté.
Et quelles sont les revendications des insurgés?
Eh bien, un de leurs cadres que nous avons contacté dit que leur revendication c'est que le gouvernement, donc plutôt les groupes armés étrangers, notamment les FDLR, devraient être désarmés par le gouvernement avant d'être rapatriés dans leur pays. Et les dissidents demandent encore que le gouvernement procède à une réconciliation de tous les peuples congolais afin qu'ils vivent ensemble. Et ils demandent finalement le rapatriement des réfugiés congolais vivant au Rwanda. Et pour les accords de cessation des hostilités, ils demandent que les FRDC puissent saquer pour se cantonner à Mubambiro, soit à 4 km de la localité, et laisse la ville de Sake comme zone tampon.
Et quelle est la situation des déplacés? Sont-ils pris en charge, suivis par qui?
Selon les humanitaires, cette dernière situation dans le Rutshuru et Masisi porte à plus de 700 000 le nombre de déplacés internes en province du Nord Kivu et dans le secteur de Mugunga. Les humanitaires disent avoir recensé jusqu'à ce mercredi 7100 familles. D'autres centaines de familles déplacées ont été enregistrées sur le presqu'île de Bulenga, frontalière avec le Nord Kivu dans la province du Sud Kivu, dit toujours la même source. Et pour le bureau de la coordination de l'action humanitaire au Tchagoma, au moins 5000 familles déplacées déjà recensées à Mugunga ont bénéficié des kits de non-vivre fournis par la Solidarité et UNICEF, et au moins la moitié d'entre elles ont bénéficié des vivres du Programme alimentaire mondial.
Merci beaucoup, Bernard.
Merci à vous.
Deogracias Mubalama, vous êtes rapporteur adjoint de la Commission des forces et sécurité à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi le tableau des troupes de Laurent Nkunda qui n'auraient pas reculé loin de Sake, posant des conditions. 700 000 déplacés à ce jour dans le Nord Kivu. Comment vous expliquez cette situation de Deogracias Mubalama?
Moi, je pense que je vais continuer toujours à dire la même chose que le gouvernement de la République démocratique du Congo, qu'il faudrait d'abord que les gens de Laurent Nkunda reviennent au bon sens. Car Nkunda n'est plus un militaire pour continuer toujours à drainer les militaires congolais. Et je redis encore une fois que les militaires congolais, s'ils se rangent dans le camp de Nkunda, qu'ils reviennent au bon sens et viennent dans le brassage comme ceci avait été déjà demandé par le Conseil de sécurité. Dans la déclaration du Conseil de sécurité du mois de juillet 2007, le Conseil de sécurité a invité tous les belligérants, c'est-à-dire ceux-là qui sont bien, ceux-là qui sont étrangers et ceux-là qui sont des dissidents au FARDC, de revenir au bon sens et de déposer les armes. Je pense que ceci avait déjà été une interpellation du Conseil de sécurité. Et je pense que si Nkunda voulait aimer le Congo, si Nkunda voulait que le Congo puisse trouver la paix, il devait répondre d'abord à cet appel du Conseil de sécurité. Le gouvernement de la République du Congo tend toujours la main à tous ses enfants, tous ses fils et filles qui sont égarés dans les rangs d'un dissident qui veut protéger seulement ses intérêts sordides et individuels.
Nous allons à Goma retrouver Ruben Mikindo. Vous êtes président de l'UDPS à Goma. Vous vivez sur place, vous êtes à Goma. Comment vous expliquez la situation que vous vivez en ce moment dans cette province?
Merci. Merci Jean-Claude. Sinon ici, nous sommes en train de vivre une situation de guerre, aussi parce qu'à la fin de la militarisation à la province du Nord-Sud central, nous assistons à des déplacés en provenance de Rukuri et Matissi, et qui se comptent par milliers, et aussi sans assistance conséquente. Il y a aussi une déplacement par les FL. Dans plusieurs localités d'Est, sinon comme du Sud.
Je crois qu'on va couper Ruben Mikindo parce que la ligne n'est pas bonne. On revient dans ce studio en attendant de retrouver Ruben Mikindo. Nous avons dans ce studio, nous l'avons dit, François Elika, qui est notre analyste politique. François Elika, comment vous expliquez cette situation? La trêve est certes observée, mais les troupes de Nkunda ne se sont pas repliées loin de Sake comme convenu. Avec ce lot de déplacés et quelques conflits aussi à caractère plus ou moins ethnique signalés dans le Matissi. Comment vous expliquez ce tableau-là?
Disons que la situation est assez préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo pour des motivations diverses. Des motivations qui dépassent la simple revendication politique de Nkunda. Il faut envisager que l'approche avec laquelle il faut saisir la question de l'Est doit être une approche plus globale. Il ne faut pas ramener la question à la simple dimension d'une querelle ou de polémiques interethniques. Ici, il faut préciser, c'est vrai que l'honorable a raison de rappeler toutes ces bonnes intentions exprimées par le Conseil de sécurité et puis le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il faut qu'on fasse très attention. Cette façon de communiquer risque de susciter un sentiment de désespoir dans le cercle de la population, parce qu'on est en face d'un gouvernement qui doit trouver des solutions aux problèmes sécuritaires. Alors si on doit rester dans des expressions du genre qu'on Nkunda revienne aux bons sentiments, c'est comme si nous oublions sur quel terrain nous nous trouvons. Nous nous trouvons sur un terrain, un théâtre d'opération militaire, c'est un théâtre avec un comportement finalisé. En tout cas, on recherche un objectif à atteindre. Et l'objectif, c'est quoi? C'est ici, pour les hommes de Nkunda, fragiliser le gouvernement de la République démocratique du Congo, le discréditer aux yeux de l'opinion, tant nationale qu'internationale, comme quoi il est incapable d'être une solution au problème de la population, de sorte que Nkunda arrive à légitimer sa lutte, à légitimer sa revendication politique. Donc, il faut ici comprendre les limites d'une telle approche lorsqu'on est dans la logique de bons sentiments. On ne peut pas demander à Nkunda d'avoir de bons sentiments parce que les sentiments qu'il a là, c'est ça, les sentiments qu'il considère comme bons. C'est-à-dire le sentiment de se présenter dans une option d'un messie pour des minorités ou pour des populations qu'il prétend défendre. Alors, la situation, elle est d'autant plus préoccupante que si aujourd'hui nous nous situons dans une logique plus globale, nous devons comprendre que nous ne sommes même plus dans une situation d'insécurité. Nous sommes dans une situation de guerre, parce que la militarisation, comme notre ami de Goma l'a dit, la militarisation est tellement poussée aujourd'hui que toute la situation, toute l'économie des pays est impensable aujourd'hui au niveau de l'Est. Il faut donc chercher une solution beaucoup plus profonde plutôt que de rester dans une approche d'expression d'intention.
Mais les troupes de Kunda qui ne reculent pas loin de Sake, est-ce que ça veut... C'est pas ça qui serait à la base de la peur, parce qu'on signale qu'il y a des gens qui continuent à quitter Sake pour aller dans
le Kunda. C'est ça que je vous dis, nous sommes sur un terrain d'opération finalisé. Les troupes de Kunda savent, lisent correctement les enjeux et comprennent quels sont les contours de la force et de la faiblesse de forces armées congolaises. Et ils savent qu'ici, en amont, le gouvernement de la République démocratique du Congo a eu à préparer ou à légitimer le contenu de leur cahier de charges à travers des solutions inadaptées, notamment la table ronde intercommunautaire. Et si on a donné aux yeux de l'opinion publique internationale l'image que la République démocratique du Congo était dans une situation de guerre civile et que la solution recommandée était celle d'une réconciliation, un peu rencontrant un peu la préoccupation de Kunda qui lui estime, après que nous ayons organisé des élections et que le pays se soit doté des institutions démocratiques, lui estime que le processus de réconciliation est déficitaire et qu'il doit commencer avec lui. Donc, lorsque nous, au niveau du gouvernement, nous assistons à un schéma qui révalorise la thèse d'une table ronde intercommunautaire, donc nous sommes là dans une perspective identitaire qui consiste à croire que nous sommes dans une situation où les guerres civiles sont là, observables, et qu'il faut amener les communautés à dialoguer, alors que ce n'est pas ça la question. La question, c'est quoi, l'Est ? La question, c'est que on se rend compte que la République démocratique du Congo dispose de ressources stratégiques. Il faut, pour que les multinationales, pour que les différents États qui ont besoin de consolider ou de mettre en place leur processus d'embourgeoisement au niveau de leur classe politique, notamment au Rwanda, il faut rappeler ici que le Rwanda a dans sa branche des services de renseignement extérieur une direction qui ne s'occupe que de la République démocratique du Congo et donc qui étudie toutes les questions. Il faut aussi rappeler ici que au niveau de Kunda, les rapports des différents instituts comme des différents chercheurs ont fait état de l'existence des différents instructeurs militaires rwandais qui encadrent les hommes de Kunda. Donc le gouvernement congolais est au courant de ça. Et en considération de cet élément, il faut noter ici le fait que les motivations à la base de l'instabilité à l'Est sont à la fois économiques, stratégiques et même d'ordre géopolitique. Donc le gouvernement, dans sa réaction, est en train de développer une vision sectorielle de choses comme si la question n'était qu'identitaire. Et là, ça va poser de problème.
Oui, on va y arriver parce que on va aborder la question des solutions pour régler définitivement cette situation. Nous retournons à Goma pour retrouver notre invité. Il s'agit de Ruben Mikindo. Il est président de l'UDPS Goma. Lui, il vit sur place. J'espère que maintenant la ligne est rétablie. Ruben Mikindo.
Oui, bonsoir.
Voilà, la ligne est bonne. Donc, vous expliquez, les déplacements qui s'observent encore des populations, notamment de Sake, qui vont vers le camp de Mugunga. Vous parliez de la militarisation observée dans la ville de Goma.
Oui, justement, c'est ça que j'étais en train de dire. Nous sommes dans une situation de surmilitarisation dans la province de Nord-Kivu. Il y a aussi, nous sommes en train d'observer de plus en plus de déplacés qui se comptent par milliers en provenance de Rutshuru et Masisi. Il y a aussi l'occupation par l'Est de l'air dans plusieurs localités de l'Est du Nord Kivu, comme du Sud Kivu aussi. Et il y a aussi la présence des troupes militaires fidèles au général Laurent Kunda, le chasseur au passage. Et aussi, il y a un autre phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur, c'est aussi la résurgence des groupes armés Maïmaï et Pareco. Disons que tout ça, moi, je préfère les mettre dans un tel sac où vous allez comprendre que ça remonte de l'échec du gouvernement de transition, où il fallait arriver à former une armée véritablement républicaine et intégrée. Et aussi, il y a ce qui est à la base de tout ça, c'est l'échec de la réconciliation nationale. Et je crois que vous allez comprendre aussi l'absence, surtout actuellement, du gouvernement de Kinshasa, qui semble ne pas avoir les pieds sur terre concernant le problème des dettes ici du pays.
Le gouvernement ne semble pas avoir les pieds sur terre, comment ça?
Alors, parce que vous savez, on dit bien en français que gouverner, c'est prévoir, Je crois que les phénomènes Kunda n'a pas commencé aujourd'hui, et c'est pourquoi je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui estiment que les phénomènes Kunda est le nœud du problème ou le nœud de l'insécurité ici à l'est du pays. Parce que Kunda, je crois, a vu le jour, ou si vous voulez, les phénomènes, parce que ça devient finalement un phénomène, et là, depuis maintenant 4 ans, l'insécurité a commencé depuis l'entrée des SDR, ou si vous voulez, depuis que les réfugiés se sont déversés ici chez nous au Congo. Or, moi, je crois que pendant la transition, nous avons eu 5 ans à pouvoir nous appeler sur le problème aussi spécifique comme celui de la sécurité. La sécurité, qui dit la sécurité, il dit l'armée, et on ne voit pas. Si vous voulez que je vous parle un peu de l'armée, je regrette infiniment de voir que le ministre de la Défense n'a pas répondu à cette question, parce qu'au moins lui, il allait nous donner beaucoup plus de lumière, parce que nous, ce que nous vivons ici sur le terrain, vous allez comprendre que l'armée congolaise est franchement absente. Et je crois que si ça doit continuer à ce rythme-là, des échecs et des échecs quotidiennement, je crois que nous allons vers la chute même du gouvernement de Kinshasa. Parce que ça fait la quatrième fois que ces insurgés font tête contre le gouvernement, ou si vous voulez, contre les FARDC, et ils les repoussent toujours jusqu'à ce que c'est la MONUC qui vient toujours barrer la route aux insurgés à 10 ou 15 kilomètres de la ville de Goma.
Situation sécuritaire qui reste préoccupante au Nord Kivu, c'est le thème de ce soir. Quelle est la situation sur terrain? Quelle solution pour amener définitivement la paix dans cette province du Nord Kivu? Je vous rappelle que nous recevons le député national Deogracias Mubalama. Il est rapporteur adjoint de la commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Ruben Mikindo intervient depuis Goma. Il est président de l'UDPS à Goma. Nous avons aussi François Elika, notre analyste politique. Monsieur le député national Deogracias Mubalama, vous avez suivi Ruben Mikindo parler de l'absence de l'armée sur place et même de l'échec de la transition. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Moi, je pense que notre ami Mikindo, il doit être correct avec lui. Dire que l'armée, les FARDC sont absents sur le terrain, ce serait peut-être trop dire. Parce que qui est-ce qui donc a mis même Kunda en déroute pendant les derniers affrontements, si nous pouvons le dire comme ça? Je peux dire peut-être qu'il pouvait peut-être demander à la MONUC, qui s'était interposé, jouer véritablement son rôle, comme avait été stipulé dans la déclaration, j'insiste, du Conseil de sécurité du 23 juillet 2007, la déclaration du président du Conseil de sécurité. Laquelle déclaration stipule que la MONUC devrait poursuivre ses efforts dans l'application de son mandat en vue d'assurer la protection des civils et de contribuer à l'amélioration des conditions de sécurité dans lesquelles peut s'accorder l'aide humanitaire. Apporter l'aide humanitaire ne signifie pas tout simplement demander aux populations de devenir des traités de guerre pour donner de l'espace aux troupes d'Nkunda qui doivent être dans le colline de Sake en train de regarder Goma, de regarder les populations et d'occuper les positions. C'est ceci, ce qui a fait que Nkunda puisse gagner du terrain, qu'il puisse devenir têtu dans la question de cesser le feu, qu'il ne puisse plus reculer dans cette même question de cesser le feu. Je pense que dans cette question-là, nous pouvons la gérer, je pense, avec beaucoup plus d'honnêteté et dire la vérité telle qu'elle se présente. Les aides humanitaires, oui, c'est une bonne chose, l'intervention des aides humanitaires, mais la sécurité, c'est ce qui nous importe, nous, Congolais. Et la mission de la MONUC, qui avait été signée au mois de juillet, je pense que la MONUC devait respecter les clauses in extenso telles que c'est donné dans ces clauses de conseil de sécurité. Le gouvernement responsable ne peut pas aller à l'encontre de ce que le conseil de sécurité lui a demandé de faire. Mais pour autant aussi, il faut que ce conseil de sécurité aussi soit conséquent des échecs que suit ces délégués, ces ambassadeurs ici en République démocratique du Congo.
Merci, Moubalama. Vous êtes rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Nous poursuivons ce dialogue entre Congolais. Nous entamons la dernière partie de cette émission. Je rappelle, elle est consacrée à la situation sécuritaire, toujours préoccupante au Nord Kivu. Quelle solution pour amener définitivement la paix dans cette province du Nord Kivu? Nous sommes toujours avec nos invités, le ministre de la Défense, mais il n'est pas avec nous. Il devrait être avec nous, mais il s'est excusé, il n'est plus avec nous. Nous sommes plutôt avec Deogracias Moubalama, rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale, Ruben Mikindo, président de l'UDPS à Goma, et François Elika, assistant à l'UFATIC, Institut facultaire des sciences et de l'information et de la communication. Il intervient comme analyste politique dans cette émission. Nous les retrouvons tout à l'heure et vous pouvez continuer à réagir.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-899-222.
Quelle solution pour amener définitivement la paix dans la province du Nord Kivu? L'ancien vice-président de la République chargé de la sécurité et défense, Azarias Rouberoy, donne sa recette. Il était l'invité de Georges Kamoujova. On écoute Azarias Rouberoy.
Dans le contexte d'un pays qui sort des élections, après deux guerres successives, la logique recommande d'éviter au maximum les solutions militaires. Parce que nous ne sommes pas loin de la guerre, nous sommes d'ailleurs entrés dans la guerre. Et donc, tout le capital de la réunification, tout le travail fait par la transition des Congolais, de la communauté internationale qui a appuyé, des élections, tout ce capital risque, si vous voulez, de s'évaporer dès lors que l'on substitue des solutions politiques aux solutions militaires.
De son côté, le président de la société civile du Nord Kivu, Jason Lumeno, propose sa solution. Il est au micro, j'allais dire, au téléphone de Denis Diboko.
On ne peut donc pas aujourd'hui accepter à ce que les revendications politiques soient appuyées par des revendications des troupes armées, dans la mesure où, pour obtenir gain de cause aujourd'hui, pour toute négociation, il faut que ces négociations ne puissent pas être appuyées par des mouvements militaro-politiques. Alors nous lui avons demandé, et nous lui demandons encore aujourd'hui, de privilégier la solution qui puisse lui permettre d'avoir des possibilités de se faire écouter, qui est d'utiliser les militaires congolais contre les militaires congolais. La cohabitation et la cohésion sociale, la cohésion entre les communautés, et pourrait même faire à ce que les décideurs politiques qui pouvaient lui tendre la main puissent se retrouver dans des situations où ils vont être contrés par l'opinion nationale et internationale à faire brandir la position radicale, donc celle des hostilités, des affrontements.
Alors, Ruben Mikindo, vous qui êtes à Goma, je rappelle que vous êtes président de l'UDPS à Goma, dans cette ville du Nord Kivu. Vous avez suivi l'ancien vice-président Rouberoy qui préconise, lui, le dialogue pour régler définitivement cette question de sécurité dans la province du Nord Kivu. Il y a le président de la société civile du Nord Kivu, Jason Lumeno, qui demande une sorte de reddition de la part de Laurent Kunda. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, comme solution?
Vous savez que moi, j'ai voté dans ce parti à vocation tout à fait démocratique. Mon parti est demandé que devant tout problème, on puisse recourir à la force. Je crois que vous allez comprendre si nous arrivons à cette situation qu'on s'y trouve actuellement. C'est parce que les acteurs politiques sont les reines du pouvoir. N'arrivent pas à comprendre que le dialogue devait rester permanent.
Voilà. Alors... On a encore des problèmes avec vous, Ruben Mikindo. Désolé pour nos auditeurs. On va tenter, si ça sera possible, d'avoir la meilleure ligne. Nous rentrons à Kinshasa avec vous, monsieur le député national, Deogracias Moubalama, rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous que le gouvernement soit prêt à dialoguer comme le souhaite, par exemple, l'ancien vice-président Rouberoy?
L'ancien président Rouberoy, durant la transition, il a eu à bénéficier de toutes les chances de dialogue, de concertation et de tout le reste. Et il en a fait ce qu'il a fait. Et nous croyons que lui, qui était chargé de la sécurité, devrait déjà au préalable faire un plan
pour éradiquer toutes ces questions-là. Le gouvernement en son temps, pendant la transition, avait privilégié de fond en comble le dialogue. Mais ce dialogue lui a engendré ce que nous continuons toujours à vivre aujourd'hui. Et comme il y a toujours un agenda qui a été caché depuis le début jusqu'à aujourd'hui, cet agenda continue toujours à se pérenniser et il y en a qui sont en train de se cacher dans le plan de M. Kondalafoire. Et nous pensons qu'il faudra qu'on soit honnête et qu'on soit citoyen, qu'on soit conséquent, intellectuel même et aimant sa patrie. Le sang qui a été versé pendant toute cette période de transition, ou même pendant tout ce temps de guerre, le même sang continue toujours à couler, et versé toujours par les mêmes gens qui sont appuyés ou supportés par ce discours-là, des taux de sensibilité, le capital risque de s'évaporer, la solution qui est privilégiée. Donc, après les deux guerres, après la période des deux guerres. Mais avant, il y avait même l'avant-guerre. Oui. L'avant-guerre, il avait été privilégié toujours par des morts, par des massacres, par des tueries, par des sangs qui se versent. Et moi, à mon avis, je pense qu'il faudra que M. Kunda, avec les quelques Congolais, sont de son rang, qui disent d'abord non à être imposés par quelque sensibilité politique que ce soit, que ce soit étrangère, que ce soit interne, mais qu'ils puissent réfléchir comme complet et dire que ces frères qui sont en train de mourir à cause de notre recherche effrénée de positionnement ou de je ne sais pas de quoi, de quelque chose de leur part, que nous puissions cesser et pardonner nos frères qui meurent au jour le jour. Mais tout se déplacer là. Ils sont en train de souffrir, ils sont en train de peiner. Toutes ces interventions-là, le pays est en train d'en partir. Et à quand est-ce le développement ou la reconstruction de ce pays? Oui, jamais nous continuons toujours avec ce rythme-là.
Oui, Deogar Kassom, Balama, vous êtes député national, hein, membre, vous êtes patriote Maïmaï, membre de l'AMP. Vous entendez parler, vous n'êtes pas pour le dialogue.
Le dialogue, nous avons toujours dialogué. Le ministre de la Défense avait privilégié une concertation politique pour le cessez-le-feu. La MONUC a privilégié le cessez-le-feu. C'est une paire de manches. Une deuxième paire de manches. Le même ministre, son excellence M. Kitez, a privilégié que Nkunda puisse avoir les bons sentiments. Mais Kunda n'a pas voulu qu'il y ait du bon sentiment. Il a négligé la guerre. Il a négligé tous ces Congolais qui sont dans le rang de Kunda. Parce qu'enfin, je peux dire qu'un Kunda se constitue comme non-Congolais. Parce qu'un Congolais fier de sa patrie ne peut pas continuer à verser le sang de ses compatriotes.
Donc, vous n'êtes pas pour le dialogue de
Le dialogue, on a toujours dialogué. On a dialogué, et même quand il faut trouver une solution, c'est toujours le cadre de dialogue. Mais les autres ne veulent pas cela parce qu'ils ont un agenda qu'ils ont caché.
Donc,
ils révèlent alors cet agenda-là.
Donc, il faut la force.
La force, il faut savoir que nous sommes un gouvernement.
Voilà.
Un gouvernement à sa puissance.
Okay.
Et si on a une armée, pourquoi cette armée? Et si nous avons fait des conventions avec les conseils de sécurité, avec la monnaie, à quelle est sa présence, donc son présent d'or?
Oui. Merci. Alors, François Elika, vous avez suivi le rapporteur de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, de Horace Asumbalama, qui privilégie la force.
Merci.
Vous l'approuvez aussi, cette démarche.
Il faut d'abord remonter à travers les propos de M. Azarias
Roubaix.
Si vous situez ou si nous situons ces propos dans un contexte général, il va de soi qu'il a raison. Mais si nous nous replaçons dans le contexte spécifique avec Nkunda Batware, il faut sincèrement reconnaître que ces propos sont inadaptés par rapport à la réalité. Pour la simple raison qu'il faut se poser la question, quel est le contenu du cahier de charge de Nkunda Batware aujourd'hui? Parce que il y a eu la guerre dans ce pays, la guerre avait une dimension externe et une dimension interne, au regard ou en considération des termes déjà de l'accord de Lusaka. La question interne devrait trouver une solution au sein des institutions, et je m'imagine que l'accord global et inclusif signé à Sankt-Kitts avait entre autres pour objectif de jeter les bases d'un processus de formalisation d'une réconciliation nationale, mais c'est un processus dans tous les cas, parce que amener les communautés à se réconcilier, c'est aussi un problème de politique de développement. Il faut mettre en place des projets d'intégration pour que ces populations, à travers les bénéfices, génèrent une économie de paix. Alors, le contexte dans lequel nous nous retrouvons, c'est un contexte où nous sommes vraiment en face d'un gouvernement qui n'a pas le moyen pour faire entendre sa volonté. Donc, nous sommes diplomatiquement un gouvernement qui subit toute initiative d'où qu'elle vienne. Le Rwanda dit que je peux offrir la médiation. Le gouvernement de la République démocratique du Congo accepte. Le même Rwanda dit que Nkunda a des griefs politiques qui sont légitimes vis-à-vis de la République démocratique du Congo, vis-à-vis du gouvernement. Le même gouvernement ne réagit pas.
Et alors, le Rwanda, sans vous couper, le Rwanda propose, en fait, ce sont les propos du président Kagame repris par certains médias, dont Le Potentiel et même l'agence Reuters, il propose un règlement politique.
Oui, tout à fait. Pourquoi il propose un règlement politique? Parce que la vision l'approche du gouvernement rwandais est une approche identitaire. On part d'une hypothèse fausse d'ailleurs aujourd'hui, qu'il existe une minorité identitaire qui est menacée. Ça, c'est une fausse question. Il faut considérer aujourd'hui, après le processus de formalisation politique, c'est-à-dire après les élections, qu'il existe en République démocratique du Congo un gouvernement et que toute revendication possible doit être canalisée à travers les institutions qui existent. Donc, je me dis que si aujourd'hui nous estimons qu'il est impossible que le gouvernement recourt à la force, c'est parce que ce gouvernement n'a pas le moyen. Non seulement il n'a pas le moyen, mais la lecture des enjeux sur le terrain est déficitaire. De sorte qu'aujourd'hui, on oublie même qu'il y a eu des gouvernements qui se sont retrouvés dans la même situation, mais qui ont réussi à résoudre la question.
Pourtant, vous avez le prêt militaire.
Tout à fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui...
Comment on peut le faire sans avoir suffisamment de moyens et sans être suffisamment sûr de l'emporter?
Oui, mais on ne peut pas. Il n'y a pas que le moyen dont on dispose. On peut mobiliser le moyen des autres. C'est-à-dire qu'il est reconnu à un gouvernement la possibilité de signer des traités d'assistance militaire. Le gouvernement Lumumba a eu un traité d'assistance, un accord d'assistance militaire avec l'URSS à l'époque, mais qu'il n'avait pas actionné. Il faut reconnaître qu'à l'époque, Lumumba menaçait, si l'ONU ne vient pas, je vais recourir à l'URSS. C'est comme ça que les États-Unis et autres ont pu très vite mobiliser les instances informelles des Nations Unies pour obtenir au niveau du Conseil de sécurité la résolution qui a été à la base de la mission d'observation chez nous. Donc ça, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le défi de notre gouvernement, c'est le défi d'intelligence. Il faut comprendre que on n'a pas besoin d'aller écraser des minorités. Nkunda n'est pas le porte-parole des minorités. Derrière Nkunda ne se battent pas des gens issus d'une ethnie particulière. Ce sont des gens auxquels il a fait transmettre le sentiment de désespoir en leur donnant la possibilité qu'ils pourraient être un messie. Mais il ne s'agit pas d'une communauté. On ne peut pas nous dire que derrière Nkunda, ce sont les Tutsis menacés ou ce sont les Hutus menacés. Non, il n'existe pas un groupe, une formation ethnique derrière Nkunda.
Mais
sont des hommes.
Oui, mais comment,
ces hommes, pour régler, c'est simple.
Oui.
Bon, en fait, je ne dis pas simple pour minimiser, mais je dis que notre gouvernement a la possibilité de mobiliser, à travers des accords d'assistance militaire, il a la possibilité de mobiliser une puissance qui peut suppléer à sa puissance déficitaire, certes, pour arriver à mettre fin à cette situation. Pourquoi? Parce que les différents rapports démontrent que les hommes Nkunda se font ravitailler par des réseaux qui existent. Pourquoi vous pensez que la République démocratique du Congo peut devenir un sanctuaire des réseaux criminels? Pourquoi vous pensez que dans un pays qui a réussi à organiser des élections avec des autorités que l'on présente comme légitimes, Nkunda à lui seul peut se mettre à déroger à la volonté de l'ensemble de la population? Donc, on n'a pas un sentiment de haine vis-à-vis d'un groupe ethnique. Je tiens à affirmer ici que Nkunda n'est pas le porte-parole d'une minorité qui serait menacée.
Oui.
Ça n'existe pas.
Oui, mais vous parlez...
Nkunda est dans une opération militaire. Il faut opposer à sa force, il faut opposer à sa force une force supérieure. Oui. Et pour arriver à cette force supérieure, le gouvernement de la République démocratique du Congo peut actionner des mécanismes de coopération militaire qui existent. Mobutu a actionné ces mêmes accords d'assistance militaire avec la France, avec le Maroc. Ça lui a permis de mettre fin à la situation des guerres dans la province du Katanga. L'Angola a fait la même chose en utilisant un lobbying très important pour arriver à mettre fin à la question de Savimbi. Donc, on ne peut pas aujourd'hui nous dire que devant l'absence d'une armée, il y a des États qui n'ont pas d'armée, mais qui arrivent à se sécuriser. Oui. Ça signifie que les accords sont possibles.
Oui, on est presque arrivé à l'heure des réactions des auditeurs, mais juste une précision, vous parlez de Nkunda, mais il n'y a pas que Nkunda, il y a d'autres groupes armés locaux, hein, d'après les informations qu'on a reçues aujourd'hui. On parle notamment des Maïmaï à Parico, dans le Massissi et Rutshuru. Donc il n'y a pas que Nkunda.
Les milices existent dans un État, pourquoi ? Lorsque la puissance publique est déficitaire. Pourquoi les Maïmaï arrivent à un tel comportement? C'est parce que les Maïmaï considèrent qu'en l'absence de moyens de puissance publique, ils peuvent se substituer à l'État. Lorsque vous prenez la résolution du Conseil de sécurité sur la question des 3R, on vous dit que les désarmements, au début, devraient être faits sur la base du volontariat. Comment vous pouvez demander à des personnes qui ont des revendications politiques, qui militarisent la situation parce qu'il y a des revendications politiques, vous pouvez leur demander d'avoir des bons sentiments? Il faut les forcer, et c'est ça la symbolique de l'État, c'est ça la force de l'État. Il ne faut pas qu'on arrive à faire croire que l'État congolais qui existe chez nous, c'est pas l'État dont la définition existe dans les manuels de sciences politiques, ça n'a pas de sens.
Merci François Elika, il est 19h51 à Kinshasa, c'est l'heure des réactions des auditeurs avec vous, Denis Diboko.
Nous avons Amani Fofo de Johannesburg en Afrique du Sud qui estime qu'il serait sage de résoudre cette question, disons la question de l'insécurité, en amont que de la résoudre en aval. En amont, c'est-à-dire matérialiser la volonté de la communauté internationale en intégrant Kunda, et après il sera réduit au calme comme son ancien patron aujourd'hui. Philippe Mongondi de Mbandaka dans l'Équateur s'interroge en ces termes. Peut-on vraiment continuer à perdre des compatriotes de l'Est qui sont pris en otage pour des intérêts qui ne disent leur nom? Il y a également Sakina Noéla de Kinshasa qui pense qu'il appartient à la communauté internationale de dire à Kunda de laisser ses hommes aller au brassage. Et enfin pour Massengue de Mbandaka dans l'Équateur, l'option militaire est désavantageuse au motif que l'armée est sous-motivée et sous-équipée. Le mécanisme diplomatique semble réaliste.
Le mécanisme diplomatique semble réaliste selon Massengue de Mbandaka dans l'Équateur. Et vous, Deogracias Mubalama, député national, patriote Maïmaï, allié de l'AMP, vous qui soutenez aussi la force, un peu comme l'a dit tout à l'heure François Elika, vous ne tenez pas compte des conséquences sur le terrain, notamment les milliers de déplacés.
La question est bien posée. Et je pense que le capital, en ce sens que j'aimerais peut-être essayer de bosser un peu revenir sur quelques interventions des participants à cette émission. Quelqu'un a parlé des charges. Je pense qu'il faut vous dire que la République, un pouvoir, ne peut pas avoir un cahier de charges inédit avec un individu, Nkunda en tant qu'individu. Le projet d'intégration, c'est un projet qui a toujours existé, mais qui a toujours été boycotté et bafoué par les gens en Nkunda. Il a dit que le gouvernement s'est suivi toute initiative extérieure. Le gouvernement subit toute initiative extérieure parce qu'il est signataire des chartes des Nations Unies. C'est une des réponses que je pouvais donner en passant. Règlement politique. Oui, règlement politique, c'est quelque chose qui a été déjà privilégié depuis avant par l'élection de l'Église mexicaine, comme je l'ai dit, mais il a été toujours sans succès parce que ça n'a pas empêché M. Nkunda d'être têtu, malgré qu'il soit révoqué de l'armée.
Il y a des groupes Maïmaï aussi, hein. Vous êtes Maïmaï, mais il y a aussi des groupes Maïmaï qui sont cités.
Maïmaï, ce sont les patriotes qui s'organisent tout simplement pour défendre la patrie qui est gravement en danger. Et je pense qu'ils sont pour rien pour être indexés dans le cadre de Nkunda. Et d'ailleurs, je regrette que ces troupes ne soient pas suffisamment permis de s'organiser pour bouter dehors tous ces énergumènes qui continuent toujours à tuer et à semer des deuils et des désolations à notre population.
Oui, donc,
minorité, il a parlé de minorité identitaire, c'est vrai.
Kunda
n'est rien d'autre qu'un arbre qui cache la forêt.
Oui, on va pas rester sur Kunda, mais essayer de répondre un peu aux questions. Il y a des auditeurs, on a vu, hein, ceux qui souhaitent qu'il y ait, qu'on privilégie la diplomatie. Hein. Vous trouvez pas que ça serait peut-être suicidaire quand vous avez le concept d'équité, vous avez le président Kagame, tout ce monde qui appelle à ce que le gouvernement trouve une solution politique. Vous pensez que c'est bon la guerre avec, je vous ai dit, hein, environ 700 000 déplacés à l'heure actuelle dans le Nord Kivu.
Je vais me répéter, le gouvernement de la République démocratique du Congo reste et est toujours resté préoccupé de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays et a toujours compté concrètement de mettre en terme à cette instabilité en prédiction, je l'ai dit, la concertation politique et diplomatique. Mais malheureusement, toutes ces versions-là que le gouvernement a toujours utilisées pour aboutir à un dialogue heureux entre les belligérants, entre les dissidents, entre tous les groupes armés, n'a toujours donné de résultats escomptés. Maintenant, nous, à notre niveau, en tant que patriotes, non pas seulement comme rapporteur adjoint de la Commission permanente de défense et sécurité à l'Assemblée nationale, moi, je dis que il est grand temps que la communauté internationale donne sa position claire sur M. Nkunda et sur le mandat d'arrêt international qui lui a été lancé.
Merci.
Parce que nous devons reconnaître une chose.
Oui, on va terminer.
On a toujours vu par la Monique, on le voit, on le reçoit, on le ravitaille, on lui donne tout ce qu'il lui faut. Parce qu'un Kunda en tant qu'individu, où trouve-t-il les armes?
Voilà,
où trouve-t-il les cartouches?
Oui, on va terminer. Gracias, Mbalama. Merci, parce qu'on tombe à la fin de l'émission. Il ne reste plus que quelques secondes. On va terminer par vous, François et Elika. Qu'est-ce que la communauté internationale, qui demande déjà au gouvernement de privilégier la voie diplomatique, qu'est-ce que vous demandez encore qu'elle fasse de plus?
Nous sommes un État souverain. Nous sommes un État souverain. Et que partout, il faut noter qu'en Angola, d'abord, je voudrais rappeler à l'honorable que l'Angola, autant que la République démocratique du Congo, c'est un pays signataire de la Charte des Nations Unies et ça n'a pas empêché à l'Angola d'actionner les mécanismes de puissance publique parce que, tel qu'il est dit, d'abord, je note qu'il ne m'a pas bien compris et il faut rappeler ici que la question de la souveraineté n'est pas en opposition avec le contenu du droit international.
C'est la même chose que l'Angola.
À l'époque, déjà à l'époque, l'Angola a dû actionner des mécanismes que nous pouvons actionner aujourd'hui. Il faut savoir que la question la plus importante au niveau de la République démocratique du Congo, c'est l'approche avec laquelle nous construisons notre action de défense. Nous devons faire comprendre aux autres qu'il est inapproprié aujourd'hui de dialoguer avec un homme qui ne peut pas, qui prétend être le porte-parole d'une minorité alors que cette minorité ne lui a pas donné son mandat. Nous devons aujourd'hui faire comprendre à la communauté internationale que ce pays pour lequel vous avez consacré autant de moyens a besoin de la paix pour accueillir les différentes possibilités de reconstruction. Et il faut que ce pays soit assisté, qu'on lui donne le moyen supplétif à sa puissance pour que toutes les contradictions soient maîtrisées. C'est de la souveraineté, mais cela relève de l'intelligence d'un gouvernement. Il ne faut donc pas se cacher derrière des expressions, recourir au bon sentiment, retrouver le sentiment patriotique. Ça, c'est inadapté quand on gère l'État.
Merci beaucoup, François Elika. C'est par vous que nous mettons fin à cette émission. Nous excusons pour Ruben Mikindo. La ligne n'a pas été bonne. C'est la fin de ce dialogue entre Congolais. Merci à tous de nous avoir suivis au nom de toute l'équipe, c'est-à-dire Nadine Foula pour la réalisation, Denis Diboko pour la préparation et Jean-Noël pour la mise en onde. Au revoir à tous.